Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique qui, en ce dernier jour de l'année, revient sur 2016, une année dont Vladimir Poutine semble sortir grand gagnant tout en n'étant pas le seul. Le chef du Kremlin a étendu la sphère d'influence de la Russie au Moyen-Orient, déstabilisé d'une certaine manière l'Occident sur fond de cyberattaques. Isolé diplomatiquement et fragilisé par des troubles internes, le président turc Erdogan a durci ses positions à l'intérieur du pays et opéré un rapprochement spectaculaire avec la Russie. Et 2016 se termine avec d'immenses questionnements sur ce que sera la présidence Trump aux États-Unis. Géopolitique a fait le choix de centrer le bilan de l'année sur le Proche-Orient, tant les répercussions à l'échelle planétaire sont importantes. Depuis les révolutions arabes de 2011, l'histoire s'est accélérée dans la région comme nulle part ailleurs, sans doute. L'intervention spectaculaire de la Russie en Syrie permet à Moscou de s'imposer comme un acteur majeur au Proche-Orient, rôle qui n'est pas tant une nouveauté qu'un retour. Également gagnant, l'Iran, qui se fait sans doute plus discret, mais n'en est pas moins déterminé à poursuivre son objectif de toujours d'hégémonie régionale. Autant dire que les tensions ne sont pas prêtes de s'achever. État des lieux avec nos invités par téléphone depuis le Liban, Karim Émile Bitar, professeur associé de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, directeur des relations extérieures du groupe Marc. Bonjour.
Bonjour.
Pour les États-Unis et l'Union européenne, la chute d'Alep, la survie d'Assad et l'ascension de la Russie et de l'Iran représentent un échec de politique étrangère. Est-ce que l'on assiste, Bertrand Badie, à un basculement de l'ordre international ?
Il y a incontestablement une rupture. Pourquoi y a-t-il rupture d'abord ? Eh bien parce que face à une tragédie de l'ampleur de celle que nous venons de vivre à Alep, l'Occident, les puissances occidentales, on aurait tendance à dire les vieilles puissances, se sentent totalement impuissantes, passives, spectatrices d'un processus extraordinairement violent. C'est-à-dire que c'est la fin de ce modèle que les néoconservateurs avaient poussé à l'extrême et qui consistait à penser, à partir du moment où le mur est tombé en 1989, que toutes les crises dans le monde pouvaient trouver leur solution dans des initiatives venues des puissances occidentales et singulièrement des États-Unis qui se considéraient, rappelez, on les appelait à un moment l'hyperpuissance comme le gendarme suprême du monde. Ce n'est pas un échec pour autant parce que je trouve qu'il est de mauvais aloi de faire des procès à quiconque. Les puissances occidentales ne pouvaient pas intervenir dans le conflit syrien. Je sais que c'est difficile à entendre et peut-être à dire, mais j'en suis absolument convaincu. Ça a été, dès le départ, la conviction de Barack Obama. Maintenant, il s'agit plus d'une incapacité liée à la transformation du monde, d'une transformation du monde que, dans le monde occidental, on a eu beaucoup de mal à voir venir, car l'échec d'une politique étrangère, je ne sais laquelle d'ailleurs, mais ça ne sera jamais comme avant, parce que pour la première fois, face à un enjeu majeur, on a un exemple clair de passivité forcée du monde occidental. Ça, c'est nouveau, et ça fera certainement jurisprudence.
Alors, pas échec, mais passivité forcée, Karim Émile Bitar ?
Oui, en effet, au Moyen-Orient, on entend énormément de voix critiquer Barack Obama pour son inaction en Syrie. Mais on a très souvent tendance à oublier les contraintes qui pèsent sur le président des États-Unis. On est toujours dans l'idée que les États-Unis sont une puissance qui peut faire la pluie et le beau temps à sa guise et qu'il suffirait d'un volontarisme présidentiel pour pouvoir influer sur le cours des choses. Il faut quand même rappeler que Barack Obama a hérité d'une situation absolument désastreuse à son arrivée au pouvoir en 2008, avec les enlisements en Irak et en Afghanistan, une crise économique de très grande ampleur. Donc sa priorité a été ce qu'on appelle le nation building at home, reconstruire l'Amérique sur ses propres bases. Il a réussi à introduire des réformes sociales de grande ampleur, la réforme de la santé, le mariage pour tous. Il a réussi à redresser l'économie. En politique étrangère, certaines percées diplomatiques considérables ont eu lieu avec Myanmar, avec Cuba, avec l'Iran. Il est vrai que en Syrie, Le bilan est bien évidemment beaucoup plus obscur. On ne peut pas nier que les États-Unis portent une part de responsabilité dans cette tragédie syrienne, puisqu'ils ont laissé se développer une guerre par procuration véritablement homérique entre les puissances régionales. Ils n'ont réussi ni à aller jusqu'au bout de leurs objectifs, ni à calmer quelque peu les ardeurs de leurs alliés régionaux, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, qui avaient chacun son propre agenda en Syrie, ce qui a fait que cette guerre s'est éternisée. Je suis d'accord sur le fait que la responsabilité principale de la tragédie syrienne n'incombe pas à Barack Obama. Cela dit, on est quand même quelque peu déçu de voir que tous les espoirs qui avaient été placés en lui en 2008, les espoirs de voir un ordre international un peu plus fondé sur des grands principes qu'il avait énoncés lui-même dans son discours du Caire et dans certaines de ses interventions, se soit quand même transformé parfois en un réalisme poussé à l'extrême que certains au Proche-Orient qualifient de cynisme. Donc on a parfois le sentiment que la politique américaine aussi entre des phases de messianisme, comme on l'avait vu pendant le mandat de George Bush, et des phases de retranchement où on considère que finalement ce qui se passe au Moyen-Orient, ce sont des conflits ancestraux auxquels les États-Unis doivent assister en spectateurs impuissants. On n'a pas encore trouvé une juste mesure, on n'a pas réussi à placer le curseur, et la page qui s'ouvre est annonciatrice de catastrophes peut-être plus grandes encore, puisqu'on voit le retour à la Maison-Blanche avec Donald Trump d'un certain nombre de visions particulièrement bellicistes autour du Moyen-Orient, et on en viendra peut-être à regretter Barack Obama, quels qu'aient été les défauts et la pusillanimité de ce dernier.
Voilà, la présidence Trump, nous l'aborderons demain dans l'émission sur les perspectives 2017. Dominique Trinquant, Karim-Émile Bitar évoquait le retranchement, Bertrand Badi la passivité forcée. Force est en tout cas de constater que c'est la première fois que les États-Unis restent, de par leur propre volonté, en dehors d'une crise majeure dans la région, au Proche-Orient. Quels sont les dangers, les conséquences de ce recul américain ?
Je crois que les premières conséquences, nous venons de les mesurer, c'est le retour, si vous voulez, après le volontarisme messianique de l'administration Bush, les États-Unis se sont contraints à une passivité et à regarder les événements. À l'inverse, le volontarisme réaliste de M. Poutine, aujourd'hui, est couronné de succès, succès qui peut être relativisé sur le fond, mais sur la forme au moins, avec la reconquête du croissant utile syrien et l'absence totale dans ce règlement du conflit des Occidentaux. Quand on parle des Occidentaux, on parle bien sûr des États-Unis, mais également de l'Europe. L'Europe est totalement absente. Et pourtant, l'Europe est la première à en payer le prix, parce que la crise des migrations, c'est bien l'Europe qui doit la supporter. Donc je pense que en cette fin d'année 2016, on voit la fin d'un cycle. Après le volontarisme de l'administration Bush, la passivité de l'administration Obama sur la zone, l'absence totale de l'Europe dans le règlement de la crise, et au contraire, la montée du succès dont peut se targuer le président Poutine sur le règlement de la crise en Syrie, puisque c'est son option qu'on peut ne pas partager, mais son option, qui est le soutien du président Bachar al-Assad, qui aujourd'hui a abouti avec une résolution du Conseil de sécurité il y a une dizaine de jours sur Alep, qui en fait était un document quasiment vide, puisqu'elle a été votée, admise par les Russes, sachant très bien qu'Alep était tombée, et que donc le rapport qui a été donné par le secrétaire général de l'ONU, personne n'en a parlé, parce que c'était totalement contrôlé par les Russes.
Alors je reste sur la Russie, Bertrand Badi, qu'est-ce qui se joue pour Vladimir Poutine? Est-ce qu'il est finalement le grand vainqueur, comme on l'évoque là? Est-ce que Moscou peut reconstruire seule la Syrie de demain? Et au-delà, quelles sont les ambitions de Poutine?
Oui, je crois que là, il faut être très prudent. Bien sûr, Poutine a remporté une victoire. Mais c'est une victoire facile et c'est une victoire à la Pyrrhus. C'est une victoire facile parce que la Russie avait, en partie par la faute des Occidentaux d'ailleurs, les meilleures cartes dans son jeu. Elle avait de vrais alliés régionaux et locaux. L'Iran, le Hezbollah, le gouvernement de Bachar al-Assad, quelque contestable qu'il fût, là où les Occidentaux n'avaient sur le terrain pratiquement aucun allié. La Turquie ne peut plus être considérée comme l'allié fidèle et proche des puissances occidentales. Et l'Arabie Saoudite, c'est la même chose. C'est donc quelqu'un qui a su profiter d'une aubaine. Maintenant, il a probablement mangé son pain blanc. C'est-à-dire que remporter une victoire militaire dans ce type d'équilibre des forces, c'était tout à fait concevable. Transformer cette victoire militaire en succès politique, c'est une autre paire de manches. Et finalement, on se demande si Poutine ne va pas être piégé par ce qui a piégé les Occidentaux pendant plus de 20 ans dans leur politique interventionniste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que face aux conflits modernes, qui n'ont plus rien à voir avec les guerres classiques que nous avons connues, la transformation d'une victoire militaire en victoire politique est extrêmement incertaine et fragile. Poutine essaye, en quelque sorte, de s'engouffrer dans cette victoire en provoquant cette conférence à Astana, réunissant superbement, en excluant les puissances occidentales, seulement l'Iran, la Turquie et lui-même. Qu'est-ce qui peut en sortir comme solution politique durable ? Là, les choses vont être beaucoup plus difficiles. Et si il n'y prend garde, Poutine risque de se retrouver exactement comme les néoconservateurs américains, c'est-à-dire face à une situation politique absolument inextricable dont il risque d'être la première victime. L'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie et probablement d'autres actes de violence sont en quelque sorte l'apéritif d'un processus qui risque d'être extrêmement rude. Il n'est pas bon dans notre époque de se présenter comme le grand tuteur du monde.
Karim Abilbitar, vu du Liban, vous partagez ce que vient de dire Bertrand Badi sur restauration de la puissance russe, bien sûr, mais retour de Moscou au Proche-Orient ?
Oui, et je partage surtout ce qui a été dit par la suite sur le retour de bâton, car vu du Proche-Orient, on se souvient que toutes les expéditions de puissance extérieure dans la région, depuis Bonaparte et son expédition d'Égypte en 1798, se sont terminés par un effet backlash assez virulent. Et lorsque Vladimir Poutine s'est engagé en Syrie, Barack Obama avait justement ironisé sur le fait que, après tout, si les Russes veulent à leur tour tenter leur chance au Moyen-Orient, qu'ils y aillent et ils vont finir par en payer le prix. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de coût pour la Russie aussi massif que ce que les États-Unis avaient dû payer en Irak. Mais il n'en reste pas moins que le retour de bâton se fait déjà sentir. D'abord, si vous suivez la littérature des mouvements islamistes au Moyen-Orient depuis quelques mois, qu'il s'agisse de Daesh ou du front al-Nusra, on remarque que la Russie est en passe de devenir le nouvel ennemi lointain pour toute la galaxie djihadiste internationale. Donc il y a tout à fait un risque que les Russes deviennent aujourd'hui les victimes de représailles et l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie n'est peut-être qu'une première étape. Donc en effet, les Russes sont revenus en force au Proche-Orient, ils ont profité de la pusillanimité américaine, ils ont profité des erreurs occidentales. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils pourront transformer cette victoire militaire en victoire politique. Il y a toujours énormément d'incertitudes, il y a les puissances régionales qui continuent de jouer un rôle considérable, des tensions pourraient apparaître entre les Iraniens et les Russes, et les Saoudiens n'ont pas encore dit leur dernier mot sur la question syrienne au Moyen-Orient. L'année 2016 a été très dure pour les Saoudiens en raison des prix du pétrole, en raison du rapprochement américano-iranien et en raison de leur enlisement au Yémen. Mais c'est précisément lorsqu'ils sont dans une situation de fragilité que les Saoudiens ont tendance à commettre des erreurs, à se lancer dans des fuites en avant. Donc la bataille d'Alep est peut-être la fin du commencement plutôt que le début de la fin pour la crise en Syrie. C'est une nouvelle étape qui est en train de s'ouvrir et il n'est pas certain que la Russie ne finisse pas par en subir à son tour les frais.
Dominique Trinquant.
Alors, autant je partage tout à fait le point de vue sur le fait que de gagner une bataille ou une guerre ne présage pas de la paix, et que la radicalisation des mouvements en Syrie fait que se retrouver autour d'une table pour trouver une solution pacifique aujourd'hui me paraît difficile. Donc, pour la négociation qu'entreprend le Monsieur Poutine, en fait, il pratique le mimétisme, parce que je rappelle qu'il rassemble effectivement Astana, Iran, Turquie, Syrie, Russie, comme la coalition a réuni les pays arabes sunnites en excluant l'Iran et en excluant la Russie qui étaient les seuls qui pouvaient intervenir. Donc il y a une espèce de mimétisme de part et d'autre qui est frappant. Maintenant, qui est intéressant, c'est de voir quel est l'objectif de Poutine. Est-ce que l'objectif de Poutine est la paix au Moyen-Orient, ou est-ce que l'objectif de Poutine est d'éloigner la menace sur l'environnement proche de la Russie? Je rappelle qu'il y a une brigade tchétchène qui combat en Syrie. Pour lui, qu'elle combatte en Syrie, c'est plutôt une victoire. Elle ne combat pas en Tchétchénie ni en Russie. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait forcément les mêmes critères. Si vous voulez, la position qu'a retenue M. Poutine en Syrie était simple. Je soutiens Bachir el-Assad parce que je ne veux pas qu'il y ait un trou béant en Syrie qui amène une menace plus grande avec un état djihadiste ou des mouvements djihadistes qui pourraient être une menace pour nous. Ceci, je l'ai détruit. Et la victoire d'Alep, pour lui, montre qu'il a réussi à détruire ça. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il va stabiliser la Syrie, parce que l'armée de Bachir al-Assad est totalement incapable de contrôler le reste de la Syrie. Et je ne pense pas que les Russes augmentent encore leur effort pour permettre de stabiliser l'ensemble de la Syrie. Donc il va se contenter d'une partie stable et d'une partie moins instable, mais qui éloignera la menace quand même de la Russie. Il n'est pas tout à fait dans la même position que la nôtre. L'avenir de la stabilité du Moyen-Orient compte moins pour lui que l'éloignement de la menace vis-à-vis de la Russie, mais le fait qu'il aura à combattre, et gageons que M. Poutine est un combattant et que le fait qu'il y ait des combats devant lui n'est pas quelque chose qui l'effraie.
Alors, l'autre élément d'incertitude, c'est l'Iran. Les milices chiites appuyées par l'Iran ont fait le gros du job de terrain, à Alep notamment, Bertrand Badi. Est-ce que finalement l'Iran n'est pas le grand gagnant, plus discret que la Russie, de l'évolution de la situation en Syrie? Quels sont pour Téhéran les prochaines étapes dans l'objectif de l'Iran, qui est de parvenir à une certaine hégémonie régionale? Et finalement, l'alliance Russie-Iran était-elle une alliance opportuniste ou pas? Et est-ce qu'elle peut durer ou au contraire devenir problématique, et dans quel sens, Bertrand Badi?
Alors, d'abord, très brièvement, mais c'est lié à la question que vous posez, il faut comprendre que, comme toujours, la rationalité d'un dirigeant de ce monde est multiple. Il y a ce que le général Trinquant décrivait, il y a aussi, je dirais, l'effet retard du traumatisme libyen, c'est-à-dire cet effroi du président d'une superpuissance, ou en tout cas d'une puissance membre permanent du Conseil de sécurité, de voir les puissances occidentales prendre entièrement et exclusivement en main le dossier libyen à travers l'OTAN. Et cette idée que si une telle attitude venait à se reproduire et à se banaliser, ce serait fini de la puissance russe et de son rôle international. Donc il y avait l'idée de marquer que l'interventionnisme occidental ne pouvait pas être conçu comme la solution permanente à toutes les crises qui allaient défiler. Et du coup, ceci a créé cette alliance assez incroyable, mais qui, je crois, est très importante, entre Poutine et les souverainistes. C'est le cas des puissances émergentes, c'est le cas des puissances régionales, et j'en viens justement à l'Iran. L'idée de toutes ces puissances, c'est cette inquiétude de voir les puissances occidentales nier leur propre existence en faisant seul le travail. Donc on a vu se former une sorte d'alliance réactive que la Russie cultivait depuis un moment. Il faut pas oublier que la Russie est membre des BRICS et membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est-à-dire deux organisations qui drainent quantité de puissances émergentes. Et si vous prenez l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui est membre observateur? L'Iran, justement. Et donc, il se crée une sorte de solidarité qui, géopolitiquement, apparaît comme eurasiatique, paradoxalement, la Russie de Poutine conduisant ses puissances émergentes et anti-interventionnistes. Alors, le jeu de l'Iran est assez clair. C'est d'abord celui de toutes les puissances émergentes qui veulent monter de la deuxième à la première division et jouer un rôle sur le plan international. Et puis, c'est quelque chose de plus qu'on ne met pas suffisamment en évidence, c'est que l'Iran a cette obsession obsidionale, c'est-à-dire cette idée d'être cantonné avec autour que des acteurs hostiles. L'Iran cherche à exister, et l'Iran, face au vide créé par notamment le printemps arabe, rêve d'être ce leader non-arabe du monde arabe. Il y a les deux, défensive et extensive.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Bertrand Badi, le général Dominique Trinquant et Karim-Émile Bitard dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur l'année 2016. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis le Liban. Karim Émile Bitar, professeur associé de relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS. Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris. Et le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, directeur des relations internationales du groupe Marc. Bertrand Badi, nous avons quitté la première partie de l'émission sur l'Iran. À propos de la Syrie, j'évoquais le rôle des milices chiites appuyées par Téhéran qui, in fine, ont fait le gros du job de terrain à Alep notamment. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui du jeu de l'Iran en Syrie et comment Téhéran entend-elle peser sur la Syrie ?
Il y a deux composantes dans la politique iranienne et ça, pratiquement depuis le début de la révolution et d'un certain point de vue même encore antérieurement. L'Iran, la Perse, a toujours eu une peur très forte de l'encerclement, avec l'idée que tous ses voisins lui sont hostiles. Les relations avec la Russie ont toujours été tumultueuses, et cela bien avant l'avènement de la République islamique. Les relations avec le monde arabe n'ont jamais été bonnes, les relations avec la Turquie guère davantage, et à l'est, du temps où l'Empire des Indes était sous tutelle britannique, il y avait également cette crainte, justifiée d'ailleurs, des ambitions britanniques. Donc, il y a toujours cette peur de l'encerclement, de cette culture qui n'est pas arabe, qui est musulmane, mais à sa façon. Et il faut voir que la mise au ban des nations de l'Iran, notamment dans cette ultime phase qui a été celle du conflit sur le nucléaire iranien, n'a absolument pas arrangé les choses. Et il y a dans la tête des dirigeants iraniens une équation finalement très simple. Si Bachar al-Assad venait à chuter, s'installerait un pouvoir sunnite extrêmement fort qui, probablement, par la pression qu'il exercerait sur l'Irak, viendrait à se répandre sur l'ensemble de la Mésopotamie et s'en serait fini des chances de survie de cette République islamique. Faut pas oublier que le premier qui s'était attaqué à la République islamique, c'était quand même le sunnite Saddam Hussein. Alors, ça, c'est l'aspect défensif. Puis, au-delà de ça, vous savez que la politique a horreur du vide. Et ce qui s'est passé avec le printemps arabe, et même déjà un petit peu avant, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable en très peu de temps, à savoir la chute des trois capitales califales du monde arabe, le Caire, Bagdad, déjà avant avec la chute de Saddam Hussein, et Damas. Et donc le vide est tel dans le monde arabe qu'il y a plusieurs candidats à assurer le leadership, ou en tout cas de s'affirmer comme puissance régionale dans ce monde arabe. Alors, il y a l'Arabie Saoudite, qui est elle-même d'ailleurs très contestée, mais hors du monde arabe, il y a des candidats très sérieux à assurer, sinon le rôle de leader, du moins celui de puissance régionale active, notamment la Turquie au nord et l'Iran à l'est. Alors la combinaison de ces deux sentiments d'inquiétude, de crainte de se voir isolé et d'opportunités à saisir à travers ce vide qui s'est créé dans la géopolitique du monde arabe, tout ceci explique l'activisme de l'Iran. Et c'est vrai que l'Iran, qui finalement rêve d'être connu pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une puissance émergente et une puissance régionale avec une capacité notamment démographique, mais aussi économique, tout à fait remarquable. Tout ceci en a fait un acteur majeur du jeu. La grande erreur des Occidentaux, ça a été cette diplomatie du bonnet d'âne, c'est-à-dire de mettre au coin tous ceux que l'on n'aime pas, et donc ne pas parler avec eux. La Russie a fait le choix inverse, et effectivement, ceci a créé cette coalition dont parlait le général tout à l'heure, et qui me paraît devenir maintenant un élément très très important de la structuration régionale.
Alors, avec une double question, c'est l'alliance Russie-Iran, est-ce qu'elle peut durer, ou au contraire, va-t-elle devenir problématique? Et Karim Émile Bitar, l'autre inconnu, c'est évidemment l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Bertrand Badi évoquait la mise au banc des nations de l'Iran. Il est vrai que Téhéran n'a pas bonne presse auprès de M. Trump.
C'est en effet la principale contradiction qui apparaît aujourd'hui dans le programme de politique extérieure de Donald Trump, si tant est que l'on puisse parler de programme. D'un côté, il souhaite un rapprochement avec la Russie, avec le régime de Bachar el-Assad, avec tout cet axe nationaliste, autoritaire et conservateur à l'échelle internationale. Mais d'un autre côté, il souhaite hausser le ton vis-à-vis de Téhéran. Il considère que l'accord américano-iranien est l'un des plus mauvais deals qui ait été négocié selon lui depuis la nuit des temps. Donc ce sera la première contradiction puisque la Russie et l'Iran sont alliés sur la question syrienne. L'autre aspect significatif, c'est dans cette nouvelle guerre froide moyen-orientale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est de voir en effet deux stratégies qui sont très différentes. Il est vrai que l'Iran n'a pas trop joué la carte communautaire, contrairement à l'Arabie Saoudite qui cherche à présenter constamment les chiites comme des hérétiques, etc. Les Iraniens ont réussi à faire un certain nombre de percées politiques dans le monde arabe, précisément en enfourchant plutôt le créneau de l'anti-impérialisme, de l'anti-américanisme, en disant grosso modo aux Arabes, les monarchies du Golfe se sont couchées face aux États-Unis, elles ne parlent plus de la Palestine, elles n'ont plus le courage de tenir tête aux grandes puissances, et ce sont nous, les Iraniens, qui allons poursuivre un peu ce combat contre les États-Unis. Et ce discours, beaucoup y ont été réceptifs au sein du monde arabe, au-delà des simples communautés chiites au Liban ou au Bahreïn ou en Irak ou ailleurs. Il y a toute une partie des anciens nationalistes arabes, une partie de la gauche arabe également, qui considèrent qu'en effet, que les Saoudiens sont devenus tellement inféodés aux États-Unis, que les monarchies du Golfe font grosso modo tout ce que les États-Unis leur demandent de faire, aussi bien en Syrie qu'ailleurs, et que l'Iran porte un peu donc le flambeau de cette contestation. Donc de part et d'autre, il y a un peu d'hypocrisie, ce n'est pas un affrontement entre deux visions du monde, c'est un affrontement géopolitique classique entre deux puissances régionales cherchant à maximiser leurs avantages économiques, géostratégiques, politiques. Mais on est en effet en présence d'une guerre des narratifs, pas uniquement d'un conflit géopolitique. Et dans cette guerre des narratifs, les Saoudiens vont être quelque peu peut-être en peine face à l'administration Trump, qui compte un certain nombre de conseillers qui ont exprimé des visions très hostiles envers l'Arabie Saoudite. C'est vrai que Trump souhaite remettre en cause l'accord avec Téhéran, qu'il souhaite éventuellement revenir à des sanctions. Mais ce qui me semble devoir prédominer dans l'administration Trump, c'est un retour à des visions assez bellicistes, empreintes quelque peu de l'idéologie du choc des civilisations. Il y a un véritable risque que l'on en revienne à une vision essentialiste, eux et nous, les États-Unis contre le totalitarisme islamique, sans tenir compte des subtilités, des nuances de la région. Donc c'est plutôt cela qui m'inquiète. Il y a un grand nombre de conseillers aujourd'hui autour de Donald Trump qui sont issus du mouvement de la suprématie blanche, qui considèrent que l'islam est un ennemi absolu, que la source du terrorisme actuel vient de la religion elle-même et non pas du contexte géostratégique. Donc il y a un véritable risque de dérive aujourd'hui, d'autant plus qu'à l'échelle mondiale, ce courant a aussi le vent en poupe.
Si on va plus loin, Dominique Trinquant, est-ce qu'on peut imaginer une sorte de marchandage entre Donald Trump et Vladimir Poutine, avec pour objectif de couper les ambitions de Téhéran en Syrie et en Irak?
Je crois que pour revenir à l'obsession de l'encerclement que citait Bertrand Badi tout à l'heure de l'Iran, l'Iran bénéficie de deux opportunités pour rompre cet encerclement. Une opportunité pacifique, c'est l'accord nucléaire, et une opportunité belliciste, c'est la conquête de trois capitales, Bagdad, Damas et Beyrouth dans une certaine mesure pour les chiites, qui permet de rompre l'encerclement de l'Iran. La troisième opportunité, vous venez de la citer, c'est ce travail avec la Russie. Et compte tenu de la position de Monsieur Trump, effectivement proche de la Russie mais éloigné de l'Iran, l'Iran a une carte à jouer avec la Russie pour essayer de négocier dans cette bande latérale avec les États-Unis par le biais de Poutine, parce que Poutine a intérêt à s'appuyer sur son alliance avec l'Iran au Moyen-Orient, et l'Iran a intérêt à s'appuyer sur Poutine pour dialoguer avec Trump, compte tenu de la position assez radicale de Trump sur l'accord iranien et contre l'Iran. Donc je pense que à la fois les opportunités qui s'étaient ouvertes à l'Iran, qui ont pris leur place aujourd'hui en fin 2016, il va falloir négocier très très serré à l'avenir avec la nouvelle administration, mais peut-être probablement par la Russie.
Alors, Beyrouth, que vous évoquiez à l'instant, avec l'appui donné par le Hezbollah au nouveau président libanais. Bertrand Badi, la Turquie, comment est-ce qu'elle va peser elle aussi sur la Syrie?
Alors, la Turquie, d'un certain point de vue, ressemble à l'Iran. C'est-à-dire, c'est un peu ce corps étranger au sein d'un monde arabe, c'est-à-dire le monde turc, qui a été autrefois le tuteur du monde arabe du temps de l'Empire ottoman, qui a pendant près de 50 ans joué la carte de la candidature à l'Europe et qui a toujours été refusé, ce qui a créé une sorte de ressentiment qui a alimenter un nationalisme qui est extrêmement fort en Turquie maintenant et qui considère que elle a beaucoup de très bonnes cartes à jouer, là aussi d'un modèle défensif à un modèle offensif. Le modèle défensif, c'est se croyant menacé dans son intégrité territoriale par le nationalisme kurde, combattre tout ce qui vient menacer sa suprématie et pourrait renforcer les nationalistes kurdes au sein de son territoire, et offensif aussi, dès que Erdogan est arrivé au pouvoir, l'idée de ressusciter ce qu'on appelait la profondeur stratégique turque, c'est-à-dire utiliser sa capacité de rayonnement, qui est double en fait, son passé impérial et aussi cette turcophonie qui s'enfonce en profondeur, non seulement dans le Caucase, mais en Asie centrale. Ce que je crois, c'est que moins on acceptera la Turquie comme acteur banal, puissance émergente d'un nouveau jeu international décentralisé et fragmenté, plus cette carte nationaliste très dangereuse sera utilisée dans sa ressource impériale et dans sa ressource pan-turque. Et effectivement, Erdogan, c'est un homme qui ressemble beaucoup à Poutine et beaucoup à Trump. L'année 2016, pour moi, c'est l'année d'une Trumpo-Erdogano-Poutinisme, c'est-à-dire ce mélange d'acteurs politiques qui sont profondément distincts. L'un est un islamiste, l'autre est un nationaliste finalement assez éloigné du religieux, et le troisième, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais ils ont la même grammaire, c'est-à-dire l'idée selon laquelle c'est le levier nationaliste qui permettra de rétablir une puissance. Dans ces trois pays, la puissance est considérée comme perdue et que la restauration de cette puissance sera le chemin qui conduira ensuite à engranger des bénéfices, c'est-à-dire à avoir une vision beaucoup plus utilitariste de la mondialisation au lieu de s'y soumettre. Ces trois-là se ressemblent, ils se comprennent parce que justement ils ont la même grammaire, mais en même temps les intérêts nationaux auxquels ils se réfèrent sont totalement opposés. Donc, c'est de la graine à conflit futur. Simplement, heureusement aujourd'hui, le jeu est un peu plus compliqué. Sans vouloir vous faire offense, je pense que la géopolitique s'est terminée. Nous sommes dans l'ère de la mobilité où les sociétés, les acteurs sociaux, les acteurs transnationaux sont considérablement plus importants que les territoires politiques. Et là, il faudra aussi compter avec des jeux sociaux qui ne se résument pas à ces équations Trumpo-Erdogano-Poutinienne.
Alors, il y a peut-être un quatrième personnage dans cette grammaire commune entre les personnalités importantes qui ont prise sur la région. C'est le Premier ministre israélien, Bertrand Badi, Benjamin Netanyahou, ce qui me permet d'avancer sur la question suivante. Finalement, l'élection de Trump à la Maison-Blanche, est-ce que c'est une chance pour Benjamin Netanyahou ou pour Israël? Et on évoque la possibilité d'une confrontation sur le sol syrien entre Israël et le Hezbollah. Quelle réalité, Karim Emil Bitar?
Alors, pour M. Netanyahou, l'élection de Trump est en effet une bonne nouvelle. Cela dit, M. Netanyahou joue un jeu extrêmement dangereux, car il y a dans l'entourage de M. Trump des antisémites avérés, et c'est cela le paradoxe de la situation que nous vivons. Nous avons aux États-Unis tout un courant des évangéliques, des figures de la droite radicale, qui sont à la fois foncièrement antisémites et en même temps qui sont radicalement pro-israéliens, qui sont à la droite des colons israéliens. Et l'ambassadeur que Trump a envoyé en Israël, David Friedman, est quelqu'un de particulièrement extrême, qui avait comparé les juifs libéraux et les juifs de gauche à des capots dans les camps de concentration. Donc nous sommes en présence d'une véritable dérive droitière, et M. Netanyahou, parce que Trump et ses amis soutiennent la colonisation, ferme les yeux sur cet antisémitisme virulent qui recommence à se propager dans certaines franges de la société américaine. Donc c'est peut-être à court terme une embellie pour Netanyahou, mais à très moyen terme, ces politiques-là sont en train de conduire à ce que Netanyahou ne souhaite absolument pas, c'est-à-dire à l'émergence d'une réalité binationale en Israël-Palestine. C'est déjà probablement trop tard pour parvenir à une solution à deux États.
Dominique Trinquant, en guise de conclusion pour cette année 2016 que Bertrand Badi a qualifiée d'année trumpo-erdogano-poutiniste.
Oui, je pense que la tendance est effectivement frappante, de la collusion, j'allais dire, de ces trois personnalités. En revanche, je reviens simplement sur le point d'Israël. Je pense qu'Israël a tout à fait intérêt à ce que la guerre perdure en Syrie. Tant que la guerre perdure en Syrie, le Hezbollah est impliqué en Syrie, le Hezbollah n'est plus une menace pour le nord d'Israël. Aujourd'hui, on ne parle jamais des frappes de l'aviation israélienne en Syrie, et pourtant elles existent. Israël a intérêt à maintenir cet état d'instabilité du Moyen-Orient à sa frontière nord et nord-est, de façon à avoir moins d'action sur le territoire israélien. Mais naturellement, l'arrivée de M. Trump sur le plan de la politique extérieure des Américains est une grande aide pour le gouvernement de M. Netanyahou. Et je pense que toute cette zone, en fin 2016, a abouti à une relative stabilisation, mais qui est très loin de la paix. Je pense que c'est une stabilisation dans le maintien d'une zone de turbulence au Moyen-Orient qui intéresse Israël, qui intéresse la Turquie, qui intéresse M. Poutine et qui intéresse l'Iran également.
Bertrand Badi.
Il faut voir que cette situation nouvelle, à terme, elle ne favorisera personne. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec le général lorsqu'il dit que nous sommes dans une situation où Israël a tout intérêt à avoir pérennisé ce conflit. Ceci étant, ce conflit, il continue à détruire des États et des nations. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de voir les uns après les autres ces États s'effondrer. Et quand un État est effondré, il n'y a plus de paix possible. Et ce qui est à craindre au Moyen-Orient, c'est que viennent s'accélérer ces processus de décomposition des États. Regardez, l'Afghanistan hors du monde arabe, mais dans le Grand Moyen-Orient, la Libye, l'Irak, la Syrie, le Yémen... Il n'y a plus d'État et donc il y a une situation dans laquelle s'engouffrent tous les jeux les plus fous. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
Donc 2016 aura fait s'allonger la liste des États effondrés. C'est cela peut-être qu'il faut retenir. Merci.
Non seulement des États, mais des nations.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris. Par téléphone depuis le Liban, Karim Emile Bita, professeur associé de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et directeur de recherche à l'IRIS. Et le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès des Nations Unies, la mission militaire française auprès des Nations Unies, et directeur des relations extérieures du groupe Marc. Nous vous retrouverons tous les trois dans l'émission de demain qui sera consacrée au grand rendez-vous de 2017. Cette édition de Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Sophia Bédard et Nathalie Laporte. Merci de votre fidélité passée en 2016 et à venir en 2017, même si la géopolitique c'est fini, comme dit Bertrand Badi. Très bonne année à tous et à demain.